Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour 3 heures d'émission en direct. Comme à l'habitude, eh bien, deux parties. Tout d'abord, nous recevons le professeur René Aucachard, qui est professeur donc de médecine, sur le thème des neurosciences. Ce soir, nous allons parler, entre autres thèmes, parce qu'il y aura plusieurs thèmes, bien sûr, liés aux neurosciences. Nous allons parler des neurosciences et du libre-arbitre. Et puis, à 19h30, nous recevons Fabrice Ballanche, qui est enseignant, maître de conférence à l'université de Lyon 2. Et nous le recevons pour évoquer la Syrie d'Al-Sharaa. C'est au cœur, en effet, de l'actualité avec les événements d'Iran. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir Laurent au standard pour prendre toutes vos questions, chers auditeurs, vos remarques. Nous proposerons bien sûr à nos invités. N'hésitez surtout pas, vous pouvez le faire soit par téléphone, donc au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Et nous abordons maintenant donc la première partie de cette émission en compagnie donc du professeur Aucachard. Ce 8 mars 2027, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Et c'est sans aucune malignité que cette émission est consacrée aux dernières découvertes des neurosciences concernant les domaines du sexe, du genre, de la famille et des hormones. En effet, la science doit nous permettre d'aborder ces sujets très actuels et délicats sans aucune idéologie, dans le respect des faits et des personnes. Ainsi, par exemple, le genre et l'augmentation incroyable de dysphorie justement du genre qui touche avant tout les filles qui souhaitent passer pour des garçons. C'est vraiment l'actualité. Eh bien, les filles sont majoritaires dans ces demandes de changement de genre et de sexe. Elles constituent 75% des demandes de transition. Quelle explication justement donne les neurosciences à ce phénomène et quelles réponses peuvent-elles apporter? Il est ainsi indispensable que nous soyons informés des dernières découvertes car elles enrichissent notre regard sur le sens de la vie et sa dignité intrinsèque tout en nous apportant des réponses et des arguments. Nous avons donc le plaisir, comme je viens de l'annoncer, de recevoir à nouveau le professeur René Aucachard, qui est notre professeur préféré et référent dans ces questions particulières auxquelles il apporte des réponses très claires, des réponses très intéressantes et qui sont très accessibles au commun des mortels. Ces réponses, il les apporte dans son ouvrage « Les neurosciences répondent à 26 questions sur le sexe, le genre, la famille et les hormones ». Et ça, c'est un livre qui est publié aux éditions Ellipse. Alors nous reprendrons, ce n'est pas la première mission, bien sûr, que nous consacrons à ce livre passionnant, et nous le reprendrons là où nous l'avons laissé, c'est-à-dire à la lettre I. Après la lettre I, pardon, nous avions vu la dernière émission, cette lettre I, qui est une lettre forte et dense, hein, puisqu'il s'agit de savoir si, comme la lettre I, I comme inné, eh bien le sexe était-il inné ou acquis? Et c'est à cette question qu'avait répondu le professeur Aucachard. Donc maintenant, la lettre suivante, c'est la lettre J, comme jeune fille. Et puis nous poursuivons, bien sûr, avec la lettre L, hein, j'ai annoncé L comme liberté, comme libre arbitre, que nous disent justement les neurosciences sur le libre arbitre et sur les libertés. Vous verrez que les neurosciences, grâce au professeur Aucachard qui nous les rend très compréhensibles, les neurosciences nous disent beaucoup de choses fortes, intéressantes. Professeur Aucachard, bonsoir.
Bonsoir Thierry.
C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct. Je rappelle aux auditeurs qui vous connaissent bien que vous êtes médecin épidémiologiste, professeur émérite à l'université Claude Bernard de Lyon. C'est, ce soir, nous n'en recevons que des professeurs de Lyon. Un notre deuxième
Lyon,
invité aussi,
hein.
Fabrice Balanche.
Lyon, c'est très important.
Mais nous le constatons, nous le constatons. Et notre deuxième invité, donc, est maître de conférence à l'université Lyon 2, qui a défrayé la chronique d'ailleurs récemment. Vous êtes spécialiste de biostatistique et de biologie de la reproduction. Vous enseignez au sein du master en théologie du corps, l'Institut de théologie du corps, donc.
Tout à fait.
Et puis vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, j'en rappelle juste quelques-uns. Alors, tout d'abord, le livre « Homme-femme, ce que nous disent les neurosciences », pour lequel nous avions eu le plaisir de vous recevoir. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre de référence, une véritable somme, c'est le dictionnaire sur le sexe, l'amour et la fécondité, que vous publiez chez Teki. Aux éditions Teki.
Tout à fait.
Hein,
tout
à fait. C'est bien ça. Sachant que le livre Homme-femme, ce que nous disent les neurosciences, vous l'avez publié, je crois, aux éditions Ellipse, non aussi, non ? Non ? Une autre maison d'édition ?
Chez Arthège.
C'était chez Arthège, pardon.
Voilà.
Pardon. Eh bien, professeur, je vous propose effectivement que nous abordions effectivement cette question. C'est. Concernant justement la transition de genre, telle que je le signalais. Dans cette introduction, pourquoi, dans ces demandes de transition, les femmes étaient majoritaires, les femmes, les filles même, parce qu'on parle de personnes souvent très jeunes, pourquoi sont-elles majoritaires? Elles constituent 75% des demandes de transition. Comment l'expliquer? Que disent les neurosciences sur ce phénomène, professeur?
Alors, merci Thierry pour cette question. Alors, en fait, il y a un renversement, car depuis des centaines d'années, on savait que, de temps en temps, les hommes avaient beaucoup de mal à accueillir leur sexe. C'est quelque chose de connu, de très ancien. La dysphorie de genre était principalement masculine, en fait. C'est tout à fait récent qu'il y a une inversion de la proportion et que ce sont maintenant des jeunes femmes qui expriment cette souffrance. Donc, vous voyez, c'est une question culturelle, en fait. Hein, c'est qu'on est passé d'une situation... Il y a toujours eu des personnes qui ont eu du mal à accueillir leur sexe, que ce soit homme ou femme, ça a toujours existé. Mais il y a en ce moment une épidémie, mais cette épidémie est sociétale, elle est culturelle. Et elle change notamment le ratio. Il y a beaucoup plus de femmes qui expriment cette souffrance. Il y a toujours eu des femmes qui l'ont exprimée. Et puis on connaît les femmes garçons manquées. Ce n'est pas d'hier, ceci a toujours un peu existé. Mais c'était rare. Tout du moins, les personnes parvenaient, en grandissant, à accueillir leur nature. Même si ce n'était pas de bon cœur, j'ai notamment beaucoup parlé, moi, personnellement, à quelqu'un qui a vécu ça de manière, avec beaucoup de souffrance, une personne que j'ai connue, moi, adulte, même un peu âgée, et qui me racontait, qui me disait comment elle avait souffert pour accueillir son sexe féminin. Et petit à petit, elle a été contrainte, à devenir femme. Elle était très belle, vous savez, et elle avait réussi à vraiment accueillir cette féminité. Elle a été maman, grand-mère, enfin épouse, et elle a réussi donc à vivre malgré cette souffrance. C'est tout à fait différent de ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment s'ajoute à ces gens qui ont toujours existé, un gros lot de jeunes gens qui expriment leur mal-être. Et dans ce nouveau lot, il y a plus de filles que de garçons, en effet.
Mais comment donc, comprendre vous... Pour quelles raisons, d'après vous, professeur?
Alors, bien sûr, il faut, quand on rentre dans ce domaine, il faut rentrer avec beaucoup de délicatesse, évidemment, parce que c'est une souffrance. Alors, il y a, pour parler de choses un petit peu qu'on connaît, la féminité aujourd'hui Le fait de devenir femme, d'avoir, de découvrir son corps change à l'adolescence est très difficile avec le regard très lourd qui est porté sur le corps féminin par je dirais, la croissance d'une grande indélicatesse vis-à-vis du corps. Cette multiplication des visualisations sur les vidéos, les télés, Internet, de la femme, non pas présentée comme mère ou comme mais comme corps en fait, hein, qui fait que pour une jeune fille qui grandit, cela peut être extrêmement difficile d'entrer dans ce corps. Et donc, il y a toujours eu des anorexies mentales, c'est-à-dire, ça a changé selon les siècles, la chlorose de la jeune fille au 19e siècle, après l'hystérie, la jeune femme était traitée d'hystérique, et puis après l'anorexie mentale, ces jeunes femmes qui ne mangent plus, maintenant ainsi leur corps en état de bébé. Enfin, elles maintiennent leur corps, un corps de petite fille. Si elles ont déjà des cycles, les cycles s'arrêtent. Elles ne deviennent pas femmes grâce à l'anorexie majeure. Eh bien, ces jeunes femmes ont trouvé une autre solution maintenant, qui est de dire, ben, en fait, moi, je ne suis pas femme. Je suis tombée dans le mauvais corps. Il faut m'enlever tout ça. Et c'est le drame terrible, notamment de l'ablation des seins. Beaucoup de jeunes femmes se font enlever les seins, se les écrasent, et sur Internet, on leur explique comment faire pour se les écraser, pour pas qu'ils poussent, entre guillemets. Et puis après, voyant cette souffrance atroce qui peut aller jusqu'à vraiment des blessures, hein, eh bien, ma foi, la médecine accepte d'enlever ses seins. Et donc, en somme, beaucoup de jeunes femmes se trouvent ainsi entrées dans cette transition. Mais vous savez, le mal vient beaucoup de nous. C'est-à-dire que on a fait une publicité extraordinaire sur les télévisions, les radios, etc., les revues, de fillettes. De garçons qui ne s'acceptaient pas comme filles ou de filles qui n'acceptaient pas comme garçons, et on glorifiait les mamans qui acceptaient cela, les parents qui acceptaient cela et qui réussissaient à l'imposer à l'école. Et donc, on a fait beaucoup de publicité. Au lieu de faire de la publicité sur le fait qu'il était difficile de grandir, il est difficile de s'accueillir comme on est. On est petit, on voudrait être grand, on est grand, on voudrait être petit. On est garçon, vous êtes fille, on est fille, vous savez ce que c'est. C'est très difficile de s'accueillir. Et surtout quand le corps change à l'adolescence, quand la puberté vient à l'adolescence. Donc en gros, si vous voulez, beaucoup vient de nous. Ce n'est pas un problème neurologique, c'est un problème sociétal principalement. Et je me dis que peut-être, pour aider à être clair sur ce sujet, je vous propose, si cela vous paraît adapté, de vous présenter les deux réactions qu'il y a. Il y a la réaction trans-affirmative, c'est-à-dire on accepte, on considère que si la personne dit je suis tombé dans le mauvais corps, eh bien on accepte son affirmation. Ça, c'est et on va donc mettre en œuvre de la chirurgie, de la médecine, on va changer le prénom, etc. Ça, c'est l'approche trans-affirmative. Et c'est malheureusement l'approche des services publics. C'est l'approche qui est prônée par les services publics, prônée par les règlements dans les écoles, et c'est d'une très grande tristesse. Il y a l'autre approche qui est extrêmement travaillée par tout le monde de la psychologie et de la psychiatrie, et qui est très très développée en France, c'est l'approche psychodynamique, qui en fait accueille la souffrance. L'approche psychodynamique accueille la souffrance, prend le temps d'accueillir ce jeune qui exprime une souffrance, cherche avec lui ce qui déclenche cette souffrance, les éléments personnels, les éléments familiaux, quelles sont les peurs, quelles sont les craintes, qu'est-ce qui fait peur de ce sexe, voyez, et qui rentre avec ce jeune dans un chemin pour l'accompagner jusqu'à l'âge adulte, hein, voyez, et qui ne va pas passer, espérer changer le corps. Changer le corps, c'est un petit peu prendre l'être humain pour un Lego, vous savez. Le Lego, vous avez un Lego où on a fait un petit bonhomme, vous pouvez changer les pièces et en faire une petite bonne femme. Hein, c'est tout à fait possible. Et malheureusement, notre société confond, croit que l'être humain est un Lego, fait d'un corps et d'un esprit séparés. Alors que non, nous sommes un être qui se voit dans son corps et qui est un esprit. Hein. Nous sommes des êtres incarnés. Nous n'avons pas un corps et un esprit. C'est Descartes, ça. C'est l'erreur de Descartes de croire que nous sommes des passagers dans un train, comme disait un auteur scientifique. Hein. Nous ne sommes pas un passager dans un train. Nous ne sommes pas une présence dans un corps. Hein. Ça c'est Platon. Hein. C'est des erreurs anciennes et bien connues que de croire que nous sommes faits en deux morceaux. Et donc, l'approche transaffirmative donc fait deux erreurs. L'approche transaffirmative qui accepte de changer le sexe, enfin qui essaye de changer le sexe pour rejoindre le genre, fait deux erreurs. La première, c'est de croire que nous sommes un corps et un esprit séparés et qu'on peut ainsi tomber dans le mauvais corps. C'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de croire que l'on peut transformer le corps. Parce que on ne peut pas, hein, comme c'est pour ça que je prenais l'exemple du Lego, on ne peut pas faire d'une jeune fille un homme. Ce n'est pas possible. Comme on ne peut pas faire d'un homme une fille. Cela est maintenant bien connu parce que, si vous voulez, cela fait 20 ans, 20 ans, en général pas beaucoup plus, que l'on est rentré dans ces chirurgies qui sont faites pour tenter de donner un corps d'homme à une femme ou un corps de femme à un homme. Ces choses sont malheureusement l'objet d'une erreur faite par nos confrères médecins chirurgiens qui font de la chirurgie esthétique souvent. Et en effet, on peut faire de la chirurgie esthétique, mais on ne peut pas changer l'être. Et donc, c'est très triste que nos pouvoirs publics, nos ministères soient tombés dans cette erreur, hein, parce qu'ils tombent dans cette erreur alors que dans d'autres pays, on est en train d'en guérir. En Grande-Bretagne, ils étaient très avancés dans ces chirurgies, etc. Et à la suite de procès intentés par des jeunes qui ont dit, mais vous m'avez délabré, eh bien, à la suite de ces procès, une réflexion s'est faite et maintenant, il est interdit de toucher au corps d'un jeune. Il y a eu un revirement.
C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, ils ont mis un âge minimum, c'est ce que vous voulez dire?
Voilà, c'est-à-dire, d'une part, ils ont mis un âge minimum et d'autre part, ils ont déconseillé. C'est-à-dire qu'il y a la prise en compte de la réflexion du fruit de 20 ans d'erreur. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs, beaucoup même, de personnes qui ont dit, mais on m'a abandonné quand j'étais en souffrance. On m'a abandonné, on a accepté ma demande première, alors que ce que j'exprimais, c'était une souffrance, et me voilà délabré, me voilà. Parce que on n'y arrive jamais, vous comprenez? On n'arrive pas. C'est-à-dire, d'une part, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que, vous voyez, la jeune femme à qui on enlève les seins, c'est malheureusement terriblement fréquent maintenant, hein, eh bien, ça n'en fait pas un homme. Hein. Et après, on va tenter, avec son vagin éventuellement, de l'allonger pour faire une petite verge. Mais on n'y arrive pas. Donc, on va faire un implant mécanique. Et en fait, vous voyez bien, on est très très loin de l'être humain, de l'être. On est très très loin. Autant on comprend que tenter de mettre un bras mécanique à quelqu'un dont le bras a été enlevé, on comprend ça. C'est pas qu'on corrige une maladie, tandis que là, on crée une maladie. Parce que cette personne sera soignée toute sa vie. Toute sa vie, elle aura besoin de soins. Hein, vous voyez? Donc,
Mais pour
il
quelle
y a
raison
eu une.
aura-t-elle besoin de soins toute sa vie?
Ah ben, parce que les hormones. Donc, si c'est une jeune femme, hein, elle devra prendre des hormones masculines toute sa vie. Hein. Ces hormones masculines, malheureusement, vont s'accompagner d'ostéoporose. La personne va faire de l'ostéoporose. Actuellement, elle va avoir des troubles cardiovasculaires. Elle est exposée à l'infarctus. Parce que une femme qui en expose à ces hormones va risquer l'infarctus du myocarde. Et puis même actuellement, comme cela fait pas mal d'années pour certaines personnes, on voit apparaître maintenant le risque de cancer. Hein. Donc d'une part, il faudra être, on passe de l'état d'une personne qui est saine à un état malade. Hein, et d'autre part, elle est frustrée, cette personne, parce qu'elle voit bien que ça ne marche pas. Sa vie intime n'a rien à voir avec une vie intime ordinaire, une vie intime avec une verge mécanique, ce n'est pas, ça n'a rien à voir. Voyez, donc ce qu'on peut changer, c'est de manière assez extraordinaire, c'est l'apparence. Cette jeune femme qui voudrait être un homme, dans la rue, on pourra la prendre pour un homme, parce que grâce à la chirurgie esthétique, on va pouvoir vraiment, pour pas mal de choses, lui donner une apparence d'homme, hein, mais pas du tout une vie intime.
Le chemin en arrière, le retour, est-il possible?
Alors, le retour en arrière dépend tout jusqu'où on est allé. Il est déjà difficile quand on a changé de prénom déjà. Vous savez, la transition sociale qui est de changer de prénom à l'école, d'être considéré maintenant dans l'autre sexe, etc. Il est très difficile de faire machine en arrière. On s'est annoncé face à tout le monde comme étant non pas fille mais garçon. Vous vous rendez compte maintenant, revenir en arrière. Il faut carrément changer de quartier, changer d'école, revenir en arrière. C'est déjà très difficile. Et soi-même, à un âge, vous comprenez, c'est un âge de l'enfance et de l'adolescence, où il y a beaucoup d'autres choses dans la vie de la personne. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais cette chose-là va complètement envahir sa vie. Et puis, pour s'en sortir, ces personnes entrent dans des clubs sur Internet, dans des groupes Internet, où ils sont accompagnés par le groupe. Et si ça ne va pas, on exprime que c'est de la faute des autres. C'est de la faute des autres, et c'est parce que tu n'as pas encore tout fait. Bien sûr, tu n'as pas encore fait tel geste. On t'a pas encore fait ça, on t'a pas encore fait ça. Après, ça ira mieux, voyez. Donc, il faut à peu près 7 ans. Le chemin dure à peu près 7 ans. Et donc le retour en arrière sera impossible si on a enlevé les seins. On a enlevé les seins, on pourra mettre des prothèses, on pourra refaire le mamelon, mais ce n'est pas un sein, vous comprenez. C'est un homme à qui on a enlevé la verge, comme cela se fait au CHU chez nous, eh bien on ne pourra pas lui remettre. Hein, les hormones sont, si c'est une fille qui a pris de la testostérone, sa voix ne reviendra pas en arrière. Sa voix ne reviendra pas. Elle trouvera pas une jolie voix de jeune femme. Elle gardera une voix un petit peu marquée, voyez, etc. Donc en pratique, si vous voulez, c'est assez incompréhensible que on rentre dans des démarches public, alors que il conviendrait au moins de poser paisiblement les deux voies. Paisiblement les deux voies, et de manière très éclairée. Voilà les deux options qu'il y a. Hein. Vous accompagner par des gens dont c'est le métier, qui ont vraiment un processus, qui savent accompagner les jeunes qui souffrent comme cela. Hein. Je pense au docteur Christian Flavigny, aux gens comme ça, qui ont vraiment beaucoup travaillé ça, et qui savent accompagner des jeunes, qui ont l'expérience de dizaines et de dizaines de jeunes qu'ils ont accompagnés. Et l'autre option, eh bien ma foi, c'est une option au contraire, on tente de vous transformer votre corps, mais voilà jusqu'où ça ira. Voilà jusqu'où ça ira. La même information que si vous faites enlever une dent ou enlever un appendice, on vous donne des tas d'informations maintenant.
Professeur Ekocha, vous nous dites, effectivement, les pouvoirs publics favorisent la méthode transaffirmative, donc le changement de sexe, hein,
Tout à fait.
au détriment de la méthode que vous recommandez, qui est la méthode psychodynamique. Comment
Dynamique.
s'exprime concrètement cette préférence des pouvoirs publics pour la transition affirmative?
Ben
Comment ça se
déjà,
passe?
la première chose, voyez, C'est de dire qu'il y a deux identités, l'identité sexuelle, le corps, et l'identité de genre, le psychisme. D'affirmer qu'il y en a deux, vous voyez. C'est d'ailleurs, on part au dualisme déjà, vous voyez. Au lieu d'accepter qu'un individu a tout à la fois un corps et un esprit, un corps masculin ou féminin, et puis un mode de vie, etc., qui sont cohérents en fait, hein, qui sont deux facettes d'une même réalité, eh bien d'emblée, sur les sites des ministères, vous pouvez regarder sur les sites des ministères, même les ministères des Affaires étrangères ou n'importe quoi, vous avez l'identité de genre, hein, déjà. C'est-à-dire une notion qui est née il y a très peu de temps, hein, et qui est tout à fait non validée, c'est validé seulement par des promoteurs, hein, l'identité de genre, parce qu'une identité, c'est quelque chose qui est observable, qui est objectif. L'identité sexuelle, si on met notre sexe ou notre photo ou nos empreintes digitales sur une carte d'identité, c'est parce que c'est identifiable par quelqu'un d'autre, c'est vérifiable, tandis que l'identité de genre, par définition, n'est pas fixe. La personne peut demander d'en changer, peut alternativement changer. Ce n'est donc pas une identité, c'est une exigence en fait qu'on a envers l'entourage à cause d'une souffrance. C'est un appel au secours en fait. Mais cet appel au secours, on en fait un fait qu'on marque dans le marbre. Donc d'une part, on trompe le jeune. On trompe le jeune. Quand on parle aux enfants maintenant, on leur dit que comment te sens-tu? Qui crois-tu être? Penses-tu être un homme ou une femme? Bien entendu, on présente le genre à l'école comme quelque chose qui est un fait, séparé du sexe. On l'annonce comme cela.
Ça se passe à
Ensuite,
l'école.
à
Ça
l'école.
se passe à l'école dans des cours.
Ben, vous savez, dans le fameux Evars, hein,
À la fameuse
c'est-à-dire
Evars, voilà.
l'éducation, voilà. C'est-à-dire, et les professeurs sont convaincus de bien faire. Les enseignants n'ont pas tous fait 30 ans de pédagogie ou de science ou de médecine. Donc, comme on leur dit que c'est comme ça qu'il convient de faire, hein, eh bien, ils le font par dévouement pour leurs enfants. Moi, je suis assez impressionné par l'engagement des enseignants. Extraordinaire. Mais ils sont trompés par les pouvoirs publics. Parce que quand on leur dit, vous comprenez, si un enfant demande de changer de prénom, vous êtes obligé d'accepter. Vous vous rendez compte, hein? Il y a une circulaire qui leur a été envoyée, des textes, etc. Vous voyez? Et en fait, les enseignants font tout ça vraiment avec cœur, avec engagement. Il n'y a pas du tout de légèreté dans leur attitude. Ce sont des personnes extrêmement engagées, vous voyez. Et donc c'est très étrange, il y a une sorte d'erreur en ce moment, vous voyez, qui fait que ça va durer longtemps, parce qu'il va falloir maintenant que beaucoup de gens souffrent, et puis qu'on fasse le chemin de l'Angleterre dans une quinzaine d'années, vingtaine d'années,
Il y
et
aura en
qu'on
effet,
réexplique le
oui,
contraire, vous voyez.
il y aura beaucoup de dégâts. Et y a-t-il une limite d'âge, justement, à la transition?
Alors, actuellement, donc, ce qui est en route, c'est 18 ans.
Donc on ne peut pas faire
Changer le
de
corps,
changer le corps à
on
travers
peut pas
différentes
changer.
opérations avant 18 ans.
Voilà, mais on peut utiliser les hormones. On fait ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. L'idée des bloqueurs de puberté, si vous voulez, c'est parce que lorsque la puberté se fait, les traits masculins et féminins se marquent plus profondément.
Oui.
Donc, un enfant qui dit, vous savez, moi, je ne suis pas un garçon, contrairement à ce que dit mon corps, je suis une fille, alors on lui donne des bloqueurs de puberté en disant, comme ça va lui permettre de grandir et de décider finalement.
Ah, pardonnez-moi, professeur, je vous interromps, excusez-moi, c'est pour bien comprendre le cheminement. L'élève de moins de 18 ans à l'école lors de ces fameux cours Evars s'exprime. Il dit non, moi j'ai un corps de garçon, mais en fait je suis une fille.
Oui.
C'est à ce moment-là que se passe-t-il? On l'envoie vers un médecin qui va prescrire automatiquement sur l'autorisation parentale, sans que les parents soient informés, des hormones, des bloqueurs, etc. Comment concrètement ça va se passer?
Déjà, la première chose qui est demandée par le jeune, c'est le changement de prénom.
Oui.
on lui donne un prénom, il dit voilà, non, maintenant. Et les mamans, souvent, ou les papas viennent à l'école et disent à la rentrée de Pâques, là, il faudra bien maintenant, Juliette, il faudra l'appeler Pierre. Juliette, il faudra l'appeler Pierre, il faudra la mettre avec les garçons, il faudra qu'elle puisse aller au WC avec les garçons, il faudra la mettre dans les listes de garçons. Et donc, ça, l'école est tenue de le faire.
Ça, ce sont les parents qui font cette démarche. C'est-à-dire, ce ne peut pas être.
C'est souvent les parents. Il suffit que ce soit le jeune. Les parents n'ont pas le droit de s'opposer. Hein.
Ah, les parents n'ont pas le droit de s'opposer.
Les parents n'ont pas le droit de s'opposer.
Même si l'enfant est mineur, ils ne peuvent pas s'opposer à ça. Hein. Il suffit que le garçon.
Non, non.
Où la fille se manifeste, disent voilà, pouf.
Tout à fait. Sinon, disons que le mot droit ne suffit pas, disons que c'est le parent n'y comprend rien s'il n'accepte pas. Vous voyez, le climat fait pression sur les parents. Et, de toute façon, un enfant qui exprime cela, c'est un enfant qui ne va pas bien. Les parents sont très inquiets pour cet enfant qui ne va pas bien. Et puis, ça fait peut-être longtemps qu'il ne va pas bien. Et ça fait longtemps peut-être qu'on le moque. On le moque, cet enfant. Vous comprenez? Parce qu'on n'est pas tous, par exemple, les garçons ne sont pas tous rugbyman, musclés, à faire des jeux à tout casser. Il y a des gens délicats. Et donc, un garçon qui est délicat va se faire traiter de fille. Hein, et déjà, les parents en souffrent de voir leur enfant malmené déjà à 8 ans, 10 ans, 12 ans, alors que les autres garçons sont casse-tout, sont brutaux. Lui est délicat, il aime mieux la danse, il aime mieux le chant. Alors on va dire, oh, mon Dieu, on s'est trompé de corps. C'est une fille et il n'a pas le bon corps. Donc les parents sont souffrants, l'enfant est souffrant, et donc enfin, on a la solution. Parce que comme le climat laisse entendre qu'on peut changer de sexe, les parents regrettent, pleurent, mais que voulez-vous? Ils souffrent. Hein. Et donc, les parents, comme toujours, comme le plus souvent, tellement généreux, cherchent une solution pour cet enfant qui souffre. Hein. Et donc, déjà, au moins déjà, accepter de changer de prénom, de changer de sexe. Et de changer de groupe, rentrer par exemple dans la, voilà, si c'est un petit garçon délicat, le rentrer dans le, voilà, accepter qu'il s'habille maintenant comme une fille, hein, et voilà, et tout le monde doit le considérer comme fille, hein, ce qui est très douloureux pour l'entourage, mais on le fait pour lui, il souffre, on croit que ça va mieux, hein, et il est content au début il est content, mais assez vite on voit bien que ça va pas, et comme la puberté menace, on le mène chez le médecin et on demande au médecin de bloquer la puberté, hein, de faire des bloqueurs de puberté. Si le médecin accepte, ce qui est malheureusement fréquent, voyant cette souffrance, cette famille souffrante, cet enfant souffrant, accepte de donner des bloqueurs de puberté, nous voilà mal partis. Parce que, vous savez, la puberté, il y a un âge pour faire sa puberté. Il y a un âge pour sa puberté. Et quand une puberté est bloquée, alors même que c'est l'âge. Vous savez, le bloqueur de puberté, c'est très utilisé en médecine et bien utile chez les enfants qui font leur puberté trop précocement. Ah, c'est une maladie, ça. Un petit enfant qui a sa puberté à 6 ans, il faut bien sûr le bloquer. Mais quand on a 12 ans, 14 ans, bloquer la puberté, c'est maintenir l'enfant en état d'enfance. Tout le monde dans la classe grandit, sauf lui. Et il y a un moment, il faut bien lâcher cette puberté. Hein. Et si à ce moment-là, avec des hormones, on commence déjà à faire une puberté de l'autre sexe. Hein. Et donc, c'est mal parti. Parce que la puberté de l'autre sexe, si c'est une jeune fille à qui on fait de la testostérone, la voilà qui mue comme un garçon. Sa voix se transforme, son corps se transforme pour la voix, hein, ses cheveux changent, souvent il y a des chutes de cheveux, donc il souffre beaucoup de chutes de cheveux, c'est pas si simple, hein, car de toute façon on ne peut pas malheureusement, contrairement aux souhaits, c'est une voix sans issue en fait.
Et la suite de cette opération, donc des bloqueurs de puberté, la suite logique, c'est à ce moment-là le changement d'apparence.
Oui, le changement d'apparence.
Mais après 18 ans.
Voilà, ouais. Voilà.
Alors, vous disiez, professeur, donc il y a cette première voie qui est celle soutenue par, malheureusement, par les pouvoirs publics, dans laquelle baignent les enseignants, baignent les enfants et baignent leurs parents avec, dites-vous, les meilleures intentions du monde. Sauf peut-être pour les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics, quand même, sont. Savent, il y a une question d'auditrice qui dit qu'il y a des études qui ont été faites sur l'impact et les traumatismes des changements de sexe. Ça a certainement été fait, les pouvoirs publics ne l'ignorent pas, vous-même vous devez les alerter régulièrement, donc on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles les pouvoirs publics poussent transition affirmative au détriment de la psychodynamique.
En fait, si vous voulez, ce qui tombe mal, c'est que c'est mis dans le fourre-tout de la défense des minorités. C'est-à-dire qu'en fait, cette problématique qui est vraiment très précise est malheureusement mélangée avec la fameuse problématique de l'accueil de la diversité des minorités et aussi le respect de la femme. C'est-à-dire que tout ça rentre dans un grand lot. Et quelqu'un qui ne serait pas d'accord pour la transaffirmation serait classé comme homophobe, non seulement transphobe, refusant de respecter les femmes, etc. Vous voyez, en fait, ça tombe dans un lot, c'est mis dans une catégorie, vous voyez. Mmh. Les pouvoirs publics mettent tout ça dans le lot, si vous voulez, de la défense des minorités, de l'ignorance d'une matérialité de l'être. C'est-à-dire, en fait, toutes ces personnes qui travaillent dans les ministères ont une culture où on se fait, en fait. On se fait. On part de rien. C'est l'existentialisme de Sartre. Hein, et on part de rien et on se construit. Et donc, il y a toute une philosophie, si vous voulez, qui ignore la matérialité de l'être, et qui ignore le fait que nous sommes des êtres incarnés, et non pas nous avons un corps comme on a une voiture, ou on ne loge pas dans son corps. Et ça, quelque part, ils l'ignorent philosophiquement. Donc, ils ont le sentiment d'être en avance, au contraire, et les gens qui n'ont pas encore accepté cela sont des retardés, si vous voulez, à leurs yeux. Voyez, donc c'est vraiment un problème culturel et philosophique, et j'imagine que quand on arrive par exemple à être député, par exemple, comment voulez-vous que on comprenne tous les problèmes, on rentre dans une comment pourrait-il, vous voyez, une personne ne peut pas s'opposer.
J'imagine que vous avez eu l'occasion, professeur, d'échanger avec ces personnes de la fonction publique, des écoles, des députés, de l'Assemblée nationale, où justement vous expliquez ce que vous expliquez parfaitement dans votre livre. J'en rappelle le titre, professeur, les neurosciences répondent à 26 questions sur le sexe, le genre, la famille et les hormones. Tout ce que vous nous dites, vous l'abordez bien sûr dans ce livre. Là, nous parlons plus particulièrement, je rappelle aux éditeurs, nous parlons plus particulièrement d'un problème très, très actuel, hein, qui est le fait que le demande de transition suite à des dysphories de genre, comme on dit à notre époque, explose et qu'elle concerne avant tout 75% de filles. Parce qu'on ne parle pas de femmes, on parle avant tout de filles, puisque cette souffrance s'exprime, vous nous l'avez expliqué, dès l'école.
Oui.
J'imagine que vous avez eu l'occasion de discuter avec les pouvoirs publics, les politiques, etc., professeur.
Alors, je vais vous répondre, mais avant, j'ai peur d'oublier, je voudrais conseiller de regarder les vidéos de Juristes pour l'enfance sur ce sujet. Ils ont une journée, et les vidéos de Juristes pour l'enfance sont remarquables.
D'accord.
Juristes pour l'enfance, vous regardez ça sur YouTube, les vidéos sont remarquables qui expliquent tout cela. Et puis, tout ça a été mis sous forme de livre questionnement de genre chez les enfants et adolescents, par les personnes de Juristes pour l'enfance, notamment Aude Mirkovic, qui a fait ce livre remarquable. Et il y a des associations remarquables en France, en Europe en fait, qui travaillent sur cette chose-là. Hein. Et donc, est-ce que j'ai pu parler avec les pouvoirs publics? Non, j'ai pu parler avec mes confrères, mes confrères médecins. J'ai un confrère, par exemple, qui dirige un service où on fait les gestes sur le sexe. Et donc, j'ai pu parler, mais un peu seulement. Parce que, si vous voulez, il est très difficile d'avoir le droit de parler sur ces sujets-là, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, assez vite, quand on sait que vous n'adhérez pas à l'enthousiasme sur l'approche transaffirmative, on vous demande de plutôt ne venez pas à la réunion. Vous voyez, on vous invite à plutôt ne pas participer. Vous voyez.
En quelque sorte, vous êtes exclu, quoi. On est vraiment
voilà,
dans l'idéologie.
Mais,
alors que c'est terrible parce que. Autant vous nous expliquez que pour le corps enseignant, il fait preuve de la meilleure volonté du monde et il croit faire le bien en poussant justement la transaffirmation, changement de prénom, puis après orientation vers des médecins qui vont donner des bloqueurs de puberté, etc., avant d'envisager les transformations physiques après 18 ans. Autant vous nous expliquez que effectivement. Ces professeurs veulent bien faire, mais ils sont ignorants. Autant les parents, pareillement, cherchent bien leurs enfants, mais qui baignent aussi un peu dans cette idéologie. Mais lorsque vous adressez à vos confrères médecins, tout ce qui touche aux neurosciences, ils le savent. Toutes les découvertes des neurosciences le fait que leurs interventions seront purement plastiques, mais en aucun cas ne vont toucher au sexe de la personne.
Je vous parle de ma conviction.
Oui.
Il a fallu 20 ans pour que l'Angleterre réalise, en analysant les dossiers, le devenir des gens, et en ayant des procès avec des jeunes qui sont retournés contre eux et qui les ont attaqués pour non-assistance à personne en danger. Il a fallu tout ce chemin pour qu'on regarde les choses, les faits, vous voyez. Parce que, tandis que les confrères français ont de petites séries, si vous voulez, le CHU de Lyon est un des CHU qui est le plus expérimenté dans ce genre de chirurgie. Et sur la page internet du CHU, il y a une page complète exprimant la grandeur de leur activité. Hein. Ça fait peine de voir, comment est-ce qu'on peut écrire ça, si vous voulez. Alors qu'on va parler, il parle d'un exemple, une personne, combien elle était heureuse, soulagée, vous voyez, c'est-à-dire, faut comprendre ce que c'est très délabrant. Enlever la verge et creuser un trou pour faire un vagin avec un morceau d'intestin, c'est quand même pathétique. Hein. Et c'est beaucoup de souffrance pour un succès vraiment un très mauvais succès.
Professeur Agochard, ce que vous nous expliquez, c'est que en Angleterre, ce qui a fait bouger effectivement les positions et revoir les partis pris idéologiques, ce sont des personnes qui avaient vécu ces transitions à travers des opérations qui ont porté en justice leur mal-être, leur souffrance, en disant non-assistance à personne en danger. Ça, en France, ça n'est pas encore arrivé.
Ce n'est pas encore arrivé à ma connaissance. Oui. Il y a des jeunes qui ont fait des transitions en France, mais personne, à ma connaissance, la juriste pour l'enfance saurait le dire. Je ne crois pas qu'actuellement, il y ait déjà des procès. Pour l'instant, et vous savez, c'est difficile pour un jeune. La détransition est tellement difficile, va être incomplète, mais elle va se faire. Le jeune va, s'il est accompagné, il peut s'en sortir avec des blessures, évidemment. Mais il peut s'en sortir en étant accompagné. Mais pour l'instant, aucun, à ma connaissance, n'est entré en justice. Hein. Vous voyez, ça reste encore. Donc, les pays du Nord, la Suède, etc., ont eu beaucoup de détransitions et ont eu des procès. L'Angleterre est allée jusqu'au bout, c'est-à-dire les politiques ont accueilli ces décisions de justice et ont acté l'erreur qu'il y avait eu de promouvoir. Ça, c'est fait. Mais chez nous, on n'en est pas encore au procès. Et malheureusement, c'est fou comme, si vous voulez, bien entendu, le chirurgien, pour lui, c'est des succès extraordinaires de chirurgie réparatrice. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan technique, ce sont des défis extraordinaires. Donc les médecins ont cette faiblesse, le médecin a cette faiblesse d'être grisé par la difficulté et de tout faire pour tenter d'apaiser la souffrance. Il croit apaiser la souffrance et il l'espère apaiser la souffrance. Et donc, ils savent bien que tout n'est pas simple et que la souffrance, elle n'est jamais complètement guérie. Donc pour eux, c'est un processus vraiment médical, voyez. La plupart, à ma connaissance, croient bien faire et ont le sentiment de résoudre des problèmes de très grande complexité, voyez.
Oui.
Et c'est vrai, technique.
Professeur, combien de personnes sont concernées par ces transitions
Ah, c'est très
en
difficile.
France?
C'est très difficile. Peut-être que certains le savent. Moi, je ne le sais pas.
Oui.
C'est très difficile d'avoir des chiffres. Ce qui est vrai, c'est qu'il y en a dans toutes les villes universitaires. Dans toutes les villes universitaires, il y a des services qui font soit de l'hormonothérapie, soit de la chirurgie, soit des deux. Donc, un peu dans toutes les régions, si vous voulez, il y en a. Donc, à force, ça fait du monde. Mais. Pratiquement maintenant, dans toutes les écoles, il y a au moins un enfant, deux, trois, qui exprime une souffrance et dont on sait qu'il y a une souffrance d'accueil du sexe. Donc, cela, c'est généralisé. Or, vous savez, on a un peu de statistiques pour dire ce qui se passe si on ne fait rien. Si on accompagne par une approche psychodynamique, ça ira encore mieux. Mais si on accompagne sans être très structuré, il y a entre 10 et 30% des personnes qui continuent à exprimer cette souffrance à l'âge adulte. Si vous voulez, on a des séries de jeunes qui ont exprimé la souffrance dans l'enfance ou dans l'adolescence, et on sait que plus de 70% d'entre eux, à l'âge
Ça
adulte, disent
disparaît.
que
C'est ça.
voilà, ça
Et ça
disparaît.
disparaît.
Et voilà, et 10 à 30% expriment, mais je souffre toujours de cette situation. C'est toujours douloureux pour moi, voyez. Et donc, ça, c'est une réalité forte et qui n'est pas inutile à connaître. Hein. Hein, c'est-à-dire,
Oui.
parce que c'est des choses qui détruisent les familles. Hein.
Mais est-ce que le traitement psychodynamique résout tout totalement les personnes qui
Alors,
s'adresse à ce processus.
résout totalement, sûrement pas.
Oui.
Et là, c'est pour le coup, j'invite à lire les livres de Christian Flavigny qui précise tout ça, c'est son métier. Hein. Et non, sûrement, en particulier pour la raison suivante, si vous voulez. Ce n'est pas un trouble qui arrive tout seul. C'est un trouble qui arrive dans une souffrance. C'est un jeune en souffrance pour bien d'autres raisons. Et donc, l'accompagnement psychologique va accompagner, va permettre de grandir et tout ça. Mais bien souvent, il y a d'autres blessures. Vous voyez ce que je veux dire. C'est très rare que cette souffrance soit toute seule. C'est pas isolé. C'est pas qu'une maladie comme vous avez une angine ou une entorse de cheville ou je ne sais trop. Non, c'est quelque chose qui vient dans un climat difficile de souffrance de ce jeune. Et donc, la personne va arriver à l'âge adulte, très souvent est améliorée, toujours sûrement pas, et on résout pas tout. Et notamment, c'est un des drames de la solution transaffirmative, où on essaye de changer le sexe, mais on n'a pas résolu les autres problèmes. Et donc, la personne souffre après comme avant.
Alors justement, en parlant de souffrance après comme avant, nous avons un auditeur qui pose cette question. Je crois qu'il y a eu des cas. Il y a eu des cas signalés, bon, peut-être au Canada ou ailleurs, je ne sais plus. Voici ce que dit cet auditeur, voici la question qu'il pose. Ne peut-on pas penser que si la transition de genre aboutit à un échec, le patient pourrait être éligible à terme à l'euthanasie? C'est-à-dire que vous nous expliquez que finalement la transition affirmative ne résout souvent pas tous les problèmes, en tout cas la personne continue à souffrir parce que elle a beau avoir eu des transformations plastiques, elle reste dans son sexe initial, et qu'on le comprend très bien. Quand on lit votre livre, professeur Ecochard, les neurosciences répondent à 26 questions sur le sexe, le genre, la famille, les hormones. Eh bien, cette souffrance qui s'installe, est-ce qu'à terme, justement, ça ne pourrait pas aboutir à une demande d'euthanasie? Je me demande s'il n'y a pas eu ce genre de cas dans d'autres pays.
Oui, bien sûr, ça a été malheureusement quelque chose qui est arrivé plusieurs fois, évidemment. Le suicide, la menace de suicide est très fréquente chez les personnes qui souffrent de cette identité, hein, à tous les âges. Ça exprime simplement la profondeur de la souffrance, hein. Et donc, dans un monde où on propose aux gens de pouvoir décider de se suicider ou d'être suicidé d'être tué par quelqu'un du corps médical, bien entendu, ça, malheureusement, ça fera partie des problèmes. Les problèmes engendrent des problèmes quand on ne les accueille pas comme il faut à la source. Alors que, si vous voulez, la médecine, c'est fait pour prendre en charge une souffrance. Donc, quand on accepte d'accueillir une souffrance, et donc l'empathie, mais aussi la compétence des psychiatres qui accompagnent ces jeunes, c'est quelque chose d'essentiel. Parce qu'il y a en effet, parmi les options finales, voyant l'échec de tout ça, c'est le suicide, évidemment.
Un auditeur, vous l'avez abordé, hein, ce point, en tout cas en partie. Existe-t-il des textes, des décrets, des lois qui obligent les parents à accepter les changements de genre, changements de nom, bloqueurs de puberté de leurs enfants mineurs? Mais vous avez répondu en disant que les parents ne peuvent pas s'y opposer.
Là, pour ce qui est des textes de loi, je renvoie au texte de juriste pour l'enfance. Je ne suis pas très compétent dans les lois. Oui. Ce qui est sûr, c'est que au niveau des professeurs, eux ne peuvent pas refuser. Je vais exprimer ça parce que c'est important. C'est-à-dire, en fait, de toute façon, les professeurs, je parle des professeurs parce que je connais mieux le problématique, c'est l'adulte, hein, et les parents, ce n'est pas beaucoup plus simple. Les professeurs, de toute façon, sont pris entre deux feux. Il y a une directive du ministère de l'Éducation qui les intime d'obéir à la demande. Une directive. Mais, par ailleurs, officiellement, dans la loi, il est écrit qu'à l'école, on doit utiliser le prénom de l'état civil. Donc, il y a une directive qui dit qu'il faut accepter de changer de prénom, une directive, et une loi qui dit qu'à l'école, on doit utiliser le prénom d'état civil. Donc, vous voyez, il y a une sorte de toute façon, on ne s'en sort pas. Hein. C'est-à-dire, de toute façon, on est coincé entre deux ordres qui nous sont donnés. Les enseignants. Donc, on a parlé de cela avec beaucoup d'enseignants en France, avec d'autres collègues lors de réunions autour de cela. Il y a des décisions à prendre, notamment de ne plus utiliser les prénoms à l'école dans cette situation. Parce que changer de prénom, on le sait, là les statistiques existent, si on change de prénom, dans 9 cas sur 10, le jeune passe ensuite aux phases suivantes, les hormones, voire la chirurgie. C'est comme lui ouvrir la porte vers les autres phases. Hein. Donc, c'est un acte de changer de prénom. C'est pas juste faire plaisir. C'est vraiment un acte.
Ce que vous nous expliquez, professeur Ecochard, c'est que les enseignants ne le peuvent pas du fait de cette directive, ne peuvent pas s'opposer au désir de l'enfant de changer de nom, mais vous nous avez dit aussi les parents non plus ne peuvent pas s'opposer à la demande de leur enfant.
Donc ça, c'est... Les parents seront maltraités. Je ne sais pas justement, voyez, ce que D'accord. signifie avoir le droit, pas le droit. Ils seront de toute façon, à ma connaissance, maltraités par l'entourage. Oui. Cependant, vous voyez, il y a des professeurs qui prennent la décision de ne pas accepter de prendre le prénom. J'en ai rencontré, de ne pas oui. accepter de changer de prénom. Tout simplement, excuse-moi, pour moi, tu comprends. Tu es Louis. Je ne peux pas t'appeler autrement. Donc, je comprends ta souffrance et je ferai très attention de ne pas t'appeler lui, mais ne me demande pas de t'appeler d'un autre prénom. Vous voyez, il y a des enseignants qui ont cette force et cette possibilité de rentrer en dialogue paisible avec le jeune et de lui demander de trouver une solution de mi-chemin, de ne plus l'appeler par le prénom qu'il ne veut pas, mais cependant ne pas l'appeler par l'autre prénom.
Oui.
Voilà. Voilà.
Oui. Ça n'est peut-être que le professeur principal. J'imagine que c'est lui qui est concerné
par cette démarche. Il y a heureusement quelques cas où le règlement intérieur de l'école stipule que l'enfant rentre comme un garçon, il restera garçon jusqu'à la sortie de l'école. Et s'il est fille, il restera fille. Il y a des règlements intérieurs où cela est écrit et où on en parle paisiblement avec les parents et l'enfant à l'inscription.
Et ça, et c'est dans l'école publique un proviseur
non,
peut... non, 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 c'est ça. Voilà. Dans l'école publique, là, on a la directive de l'éducation nationale qui intime quasiment l'ordre de satisfaire la demande de l'enfant, le changement de prénom, etc., malgré ce que dit la loi sur l'état civil. Hein. Donc ça, c'est tout dans le privé, fait. En quelque sorte, ou les écoles sous contrat, où on peut avoir un règlement particulier.
Parce que dans le public, on a la directive Blanquer, du nom du ministre, qui dit cela. Mais c'est quelque chose qui, juridiquement, est très complexe, parce que ça s'oppose à la loi. Donc il y a une directive qui s'oppose à la loi... j'imagine que ça reste un problème, vous voyez.
Oui. Alors, professeur, une dernière question d'auditeur, une dernière remarque d'auditeur, nous allons faire une petite pause. Vous serez bien en ligne, bien sûr, un message de la radio, une petite pause musicale, et puis nous reviendrons. Je crains que nous n'ayons le temps que de faire une seule lettre ce soir de votre superbe livre, Les neurosciences répondent à 26 questions aux éditions Ellipse, et nous aborderons la lettre J. J comme jeune fille. Et vous avez évoqué, c'est un chapitre passionnant de ce livre, vous évoquez les risques de la contraception hormonale. Enfin, vous posez la question, que disent les neurosciences en la matière sur l'éventualité de risque de contraception hormonale? C'est ce que nous allons voir, bien sûr, après la pause. Mais une dernière question d'auditeur, si vous le voulez bien. L'auditeur pose la question des lobbies. Est-ce qu'il y a des lobbies suffisamment puissants pour influencer les prises de décision des pouvoirs publics et celles des individus, notamment lorsqu'ils font des directives pour encourager la transition affirmative.
Donc, pour rester vraiment concret à ce que je connais bien, c'est ce qui se passe pour nous, médecins, chercheurs, dans les universités. C'est, pour nous, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe au moins deux manières. Déjà, quand on soumet un article, moi je publie beaucoup dans des revues scientifiques, eh bien, il y a des revues qui nous imposent de cocher la case. Est-ce que nous nous considérons comme homme? Est-ce que nous nous considérons comme femme? Est-ce que nous nous considérons ni homme ni femme? Est-ce que nous nous faisons appeler il, elle? Voyez. Donc, en somme, déjà, il y a des revues qui... déjà nous impose à ne pas être dans le binaire, déjà. Donc, par le simple fait de notre identification pour déposer un article. Ensuite, lorsqu'on demande de l'argent pour faire une étude, eh bien, on va dans bien des cas devoir déclarer que l'on est ouvert à la diversité. Et que donc, voyez, il y a une université canadienne où les étudiants sont obligés dans leur questionnaire, de poser deux questions. Quel est votre sexe? Quel est votre genre? Et donc, vous voyez, donc c'est par des techniques comme cela. Et ensuite, dans les directives européennes, je crois savoir que, il y a un grand nombre de comment on appelle ça, les gouvernements doivent valider un grand nombre de critères qui prouvent qu'ils sont ouverts, qu'ils sont positifs vis-à-vis du genre. Et donc, être positif vis-à-vis du genre, c'est considérer qu'il existe indépendamment du sexe. Donc, les États sont obligés de poser des actes où ils confirment qu'ils font du genre une identité. Et ensuite, tout en découle, vous comprenez, et que les gens peuvent bien, on peut vraiment leur changer leur sexe, etc., etc. Et donc, comme il y a une sorte de pression globale qui est faite, et je trouve que ça répond à la question du lobby, voyez. Alors,
Oui.
d'où vient tout cela? D'où vient tout cela? Bon, là, ça nous entraînerait à passer toute la soirée sur le sujet, mais dans le fond, quand même, c'est très ancien, cette problématique du refus du corps. Hein. On disait Platon déjà, hein, le corps et le cerveau sont séparés déjà chez Platon, Descartes. Hein, et nos fameux philosophes, vous comprenez, les philosophes français de l'après-guerre, et donc, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour montrer qu'il n'y avait pas de nature humaine. Ceci est arrivé aux États-Unis et a été pris par des universités, et les féministes, qui étaient dans un combat de défense des femmes, ont pris aussi en main cette problématique philosophique de Sartre, de Beauvoir, etc. Et on en déduit que déjà, affirmer qu'on était femme, bah, c'était déjà en dire trop. Parce que une femme, elle est peut-être aussi un peu un homme, etc. Et donc toutes ces universités ont digéré les philosophies de Sartre ou de Beauvoir, etc. Et ont transformé cela donc au doute sur l'unité du sexe et du genre. Et donc ensuite, si vous voulez, elles ont pris le pouvoir sur d'autres universités, le pouvoir sur la pensée, et même les partis politiques. Sont pas clairs sur ce sujet, vous le savez bien.
Professeur, nous écoutons un message de la radio, vous restez surtout en ligne, nous écoutons un message de la radio, suivi d'une petite pause musicale et nous reprenons avec vous cette discussion.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
chers auditeurs de Radio Courtoisie, quand rien ne va plus, il faut écouter Bach. Et grâce à Stéphane qui nous a sélectionné ce superbe extrait musical de la sonate pour flûte BWV 1031, nous avons une auditrice qui nous dit « Bonjour, je cherche la personne qui parle de la transition sexuelle actuellement à Radio Courtoisie le 8 mars 2026. » Eh bien, chère auditrice, c'est le professeur Écochard et nous avons le plaisir de le recevoir pour ce livre qu'il faut lire absolument car il apporte beaucoup d'arguments, d'explications qui nous aident à comprendre ces questions complexes de sexe et de genre. Alors le livre, les neurosciences, répondent à 26 questions sur le sexe, le genre, la famille et les hormones que publie le professeur Écochard aux éditions Ellipse. Professeur, nous avons une auditrice qui demande si parmi les jeunes filles qui souhaitent effectuer une transition de genre, retrouve-t-on à l'origine de ce désir des souffrances liées à un viol ou des agressions sexuelles dans la petite enfance ?
Oui, bien sûr. Quand on lit, moi je n'ai pas accompagné de jeunes, hein, personnellement, psychologiquement, ce n'est pas mon métier. Donc quand on lit les spécialistes comme Christian Flavigny, on voit que ça fait partie des choses que l'on retrouve chez ces jeunes, hein. Et que ce n'est pas la seule chose, bien sûr, mais ça fait partie, en effet, les agressions, tout ce qui touche, en effet, à notre pureté, tout ce qui touche à notre être peut avoir comme cela des conséquences à long terme, et d'autant plus, bien entendu, si c'est toucher cette intimité. C'était connu déjà comme pouvant donner d'autres troubles comme l'anorexie mentale, mais ce n'est pas du tout la cause la plus fréquente. Hein. Il y a parfois dans les choses qui sont exprimées le désir des parents d'avoir un garçon, par exemple. Cette fille peut se sentir en fait obligée dans son cœur, inconsciemment, de répondre à l'attente des parents. Les parents auraient tellement voulu un garçon que cet enfant, sans même s'en rendre compte, veut tellement bien faire qu'il y met dans le fond, moi je suis le garçon, je suis ce garçon que vous auriez aimé avoir. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses comme cela. Et il y a aussi le fait de savoir que les filles sont agressées. Quelqu'un qui regarde la télévision tous les jours, il entend tous les deux jours au moins qu'il y a des jeunes qui sont agressés dans le métro, etc., etc. Qui a agressé? Comment elle a agressé? On n'entend que ça, si j'ose dire. Une jeune fille qui grandit et qui voit que être fille, c'est être agressée, peut décider de ne pas être fille. Hein. Donc vous voyez, il y a un grand nombre de causes comme cela, hein, où la maltraitance morale au sein d'un couple ou d'une famille, où on méprise les femmes. Hein. Mais l'inverse est vrai pour les hommes. Hein. Dans une famille où l'homme est bafoué, le garçon qui est gentil, entre guillemets, vous savez, peut dire, mais moi, vous savez, moi, je suis plutôt une femme, en fait. Je suis gentil, je suis délicat, j'aime l'ordre, j'aime la beauté, je ne suis pas une brute, moi. Et donc, peut, de son côté, lui, dire qu'il est, en fait, contrairement à l'apparence, il est une fille, vous voyez. Donc, en fait, les souffrances sont multiples en termes de causes. Elles peuvent être psychologiques, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elles peuvent être réactionnelles à un stress, à une agression, comme vous l'avez évoqué, ou un climat, ou à une ambiance actuelle concernant la relation homme-femme qui est présentée sur les médias comme la guerre des sexes, en fait.
Professeur, une dernière question avant de passer enfin à la lettre J de votre livre. Dernière question d'auditeur, les hormones jouent-elles aussi un rôle pour les adultes qui veulent procéder à une transition ?
Oui, bien sûr, les adultes qui veulent procéder à une transition vont utiliser bien souvent, enfin presque toujours, des hormones. C'est-à-dire que les adultes qui font une transition, qui démarrent une transition, déjà changer le prénom, changer l'aspect dans la chirurgie esthétique, et les hormones, en effet. Oui, oui. Tout à fait, les hormones. Alors, les hormones vont changer souvent la peau, vont changer les cheveux, vont changer la voix, change un peu la musculature, la peau surtout, l'acné va apparaître. Si c'est une femme qui prend de la testostérone, l'acné va apparaître, les cheveux vont se modifier, les golfs temporaux, vous savez, les sortes de creux au niveau du cuir chevelu, enfin, vont se masculiniser comme cela. La peau s'épaissit, l'odeur de la peau va changer, vous voyez, oui, tout à fait, les hormones vont participer au traitement.
Alors, professeur Ecochard, je vous propose que nous abordions plus particulièrement votre livre, Les neurosciences répondent à 26 questions, bien que tous les thèmes que vous avez développés ce soir sur la transition de genre, vous l'abordez bien sûr dans ce livre, donc Les neurosciences répondent à 26 questions sur le sexe, le genre, la famille et les hormones que vous publiez aux éditions Ellipse, hein, c'est une source extraordinaire de connaissances sur les découvertes récentes des neurosciences, et c'est aussi de nombreux arguments que vous pouvez nous apporter sur ces questions très, très complexes. Nous en étions arrivés à la lettre J, J comme jeune fille, et le thème de ce chapitre, professeur, c'est « La contraception hormonale présente-t-elle un risque pour la jeune fille ?» Alors, je lis l'introduction, si vous le voulez bien, et puis après, je vous laisse développer vos arguments, ce que disent en fait les neurosciences, parce qu'il s'agit de ça, sur cette question. Donc, c'est très factuel. Là encore, il n'y a aucune, idéologie. Hein, c'est d'ailleurs votre livre, dans votre livre, il n'y a aucune idéologie. C'est vraiment ce que dit la science et les dernières découvertes de la science sur ces questions importantes. En août 2020, écrivez-vous, un décret a ordonné la gratuité de la contraception pour les jeunes filles de moins de 15 ans. Cette décision suppose que la contraception ne présente pas de nocivité à leur âge. Or, la contraception utilisée est généralement une contraception hormonale. Celle-ci interrompt les sécrétions hormonales naturelles de la jeune fille et les remplace par d'autres produits hormonaux selon un rythme différent de celui correspondant à l'installation progressive des cycles féminins. Est-ce nocif pour la vie de la jeune fille pendant l'adolescence ? Est-ce que cela risque d'avoir un impact sur sa vie future ? Sans être en mesure de l'affirmer, les neurosciences donnent cependant des raisons de le craindre. Alors pourquoi la question est importante, professeur ?
Elle est importante parce que respecter la... Nous sommes émerveillés par la féminité, n'est-ce pas ? Mais cette féminité, elle n'est pas reçue toute comme ça dans les chromosomes. C'est que la féminité est reçue par la petite fille dans le ventre de sa maman, puis en grandissant, et puis sa féminité se développe, la jeune fille est en fleur, si j'ose dire, de sa féminité, depuis sa puberté jusqu'à l'âge adulte. On regarde la photo d'une petite nièce à 10 ans, on regarde la photo de la même petite nièce à 20 ans, ce n'est plus la même personne. Donc ce temps, vous voyez, entre 10 et 20 ans environ, hein, la deuxième douzaine, hein, par exemple 12, 24 ans, 10, 22 ans chez la fille, c'est une mue totale de la personne, hein, vraiment. C'est la chenille qui devient papillon, hein, c'est extraordinaire. Eh bien, ce qui se passe dans son corps, la même chose se passe dans le cerveau. Les neurosciences ont montré que ces 12 années sont vraiment une transformation de l'être. La jeune fille devient femme. Mais tout cela, c'est pas par une baguette magique. C'est pas une baguette magique. C'est en grande partie, pas seulement, heureusement, c'est par les chromosomes et les hormones. Et malheureusement, la pilule enlève les hormones naturelles et en met d'autres. Donc, il est normal, scientifiquement, une question scientifique normale, de se dire « Et alors, est-ce que tout va bien ?» Sous-entendu, est-ce que enlevant les hormones naturelles et en mettant d'autres, est-ce qu'on a le même succès ? Est-ce qu'on réussit la même chose ? Est-ce qu'on a vraiment le même résultat ? Et des scientifiques, notamment des jeunes femmes, c'est assez extraordinaire, se sont posé la question. Des jeunes femmes scientifiques, notamment des neuroscientifiques, se sont posé la question. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Notamment, il y a une jeune femme absolument incroyable, elle s'est fait faire une imagerie cérébrale, une imagerie du cerveau tous les jours de son cycle féminin. Et vous savez ce qu'on a observé? Ça a été publié, bien entendu. Eh bien, en fait, ces imageries cérébrales tous les jours, chaque jour de son cycle, ne sont pas les mêmes. Au cours du cycle, le cerveau change. C'est incroyable. Donc, voyant cela, ces chercheurs se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que des zones du cerveau sont sensibles à des hormones et d'autres zones du cerveau sont sensibles à d'autres hormones. Donc, en fait, ils ont montré que les hormones agissent sur le cerveau. Voyez? Donc, si on voyait que le cerveau changeait, c'est parce que le cerveau est sensible aux hormones. Voyez? C'est impressionnant. Et après, d'autres chercheurs ont comparé l'image du cerveau de personnes qui ont leur cycle ordinaire et de personnes qui sont sous pilule. Et oh, incroyable, il y a des zones du cerveau qui ne réagissent pas pareil. Donc en somme, les hormones de la pilule ne donnent pas le même effet sur le cerveau que les hormones naturelles. Donc ces gens-là ont dit, mais attendez, là, il faut qu'on fasse attention. Et notamment, actuellement, enfin, je ne sais pas aujourd'hui, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais j'ai regardé il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, sur le site de l'American Psychiatric Association, donc la grande société américaine de psychiatrie, qui est une société très importante aux USA, il y a une page dédiée posant la question, disant, mais qu'est-ce qu'on fait avec la pilule? On transforme le cerveau. Et donc, lorsque on est jeune femme comme ça en train de se développer, est-ce qu'on ne prive pas la jeune femme d'une aide pour sa vie? Est-ce qu'en faisant ça, on la prive pas de choses que la nature a mis au point, si j'ose dire, pour l'aider dans sa féminité? Voyez, la question est sérieuse. On est aidé par nos hormones à développer nos capacités. Regardez, regardez, maintenant c'est le printemps. Si on va voir nos fleurs, nos plantes de maison, subitement reverdir, les feuilles deviennent plus vertes, et puis on voit apparaître les fleurs. Hein. Et donc en somme, le soleil va déclencher une réaction hormonale et on voit l'effet des hormones. Eh bien, c'est la même chose pour nous, les hormones. Les hormones mettent en fleur nos capacités. Et donc, une jeune fille comme cela, qui est sous contraceptif, ben, se voit quelque part privée d'une aide. Elle est privée de ce qui lui est donné pour devenir une jeune femme, voyez. Et donc, comme énormément de jeunes femmes ont été sous pilule, on voit bien qu'elles sont femmes, elles sont belles. Je ne dis pas que, bien heureusement, la contraception n'a pas détruit leur féminité, fort heureusement, qui est écrite dans leur chromosome XX. Hein, et toute leur petite enfance, dans le ventre de la maman, et puis toute la petite enfance, elles ont développé cette féminité. Mais elles sont éventuellement privées de ce que la puberté et l'adolescence a prévu pour les aider, pour terminer leur... Vous voyez...
Alors justement, professeur, vous nous le rappelez, vous l'écrivez dans ce chapitre consacré donc à la lettre J comme jeune fille, la contraception hormonale présente-t-elle un risque pour la jeune fille, hein, tel que dans votre livre, Les neurosciences répondent à 26 questions aux éditions Ellipse. Quelle est l'influence des hormones sexuelles naturelles sur la mue du cerveau et plus particulièrement de la jeune femme?
Alors, voilà, je vais prendre,
Qu'est-ce qui se passe de manière naturelle?
des choses concrètes, des choses
C'est ça.
concrètes.
Et
Voilà.
le fait que l'on utilise effectivement des contraceptifs hormonaux,
Oui.
qu'est-ce qui va ne pas se passer
Voilà.
dans son
Alors,
cerveau
voilà.
et qu'est-ce qu'elle risque de perdre? Est-ce que c'est perdu définitivement?
Je comprends. Alors, il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Donc, je dois rester sur ce qu'on sait. Hein? Ce qu'on sait, c'est que pendant la puberté, donc ce moment d'imprégnation hormonale très particulière, on voit les cerveaux du garçon et de la fille se différencier. C'est-à-dire que, notamment, par exemple, l'amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, c'est la zone du cerveau qui est le hub de nos émotions. C'est vraiment la tête pensante, l'amygdale cérébrale, de nos émotions. C'est là qu'on gère nos émotions. Eh bien, ça ne se développe pas pareil chez un garçon et une fille. Et à ce moment-là, on voit se différencier encore beaucoup plus la manière de vivre les émotions d'un garçon et la manière de vivre les émotions d'une fille. Ça, chacun l'a constaté dans la vie quotidienne. Eh bien, les neurosciences le voient carrément. Les neurosciences voient la taille des amygdales cérébrales à chaque âge, voient l'aspect, quelle zone de l'amygdale cérébrale est active. Et donc, vous voyez, sous l'effet de ces hormones, masculine ou féminine, eh bien, on a comme cela une différenciation de la gestion des émotions. Ensuite, quand on continue à grandir, là j'arrive à 18 ans, entre 18 et 22 ans, qu'est-ce qu'on voit qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on voit de manière très certaine, c'est le développement du lobe préfrontal. Cette zone qui, chez l'être humain, lui donne la capacité de prendre des décisions, de discerner. Eh bien, la manière de prendre des décisions d'un garçon et d'une fille, c'est pas la même. Chez la jeune femme, il y a toujours capacité, très grande aisance, de prendre en compte les dimensions émotionnelles quand on prend une décision. L'homme, lui, est plutôt aidé à se centrer sur ce qui est pratique, ce qui est réaliste, laissant un peu de côté les émotions. Au contraire, la jeune femme, elle est aidée à tenir compte des émotions, vous voyez. Eh bien, ces choses-là se développent sous l'impact des hormones. Et on voit que les personnes qui sont sous contraceptifs ne prennent pas tout à fait les décisions de la même manière. Et selon le contraceptif, cela change la manière de prendre une décision. Une décision, je dirais, plus masculine ou plus féminine. Et donc, vous voyez, on voit l'impact. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y a des séquelles à long terme. Ça, on n'en sait rien.
On ne sait pas. Oui.
À ma connaissance,
parce qu'on n'a pas assez de recul. Nous n'avons pas assez de recul sur ces enseignements.
C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, on a beaucoup d'études qui sont réalisées pendant la puberté ou à l'âge adulte. Mais à ma connaissance, je ne connais pas d'études chez l'adulte qui comparent des jeunes qui ont été sous contraceptifs et d'autres qui n'ont pas été contraceptif à l'adolescence. Et moi, je n'en connais pas. Il y en a peut-être, mais je ne les ai pas croisés. Je les cherche, par contre. C'est-à-dire qu'on cherche ces fameuses études qui voient s'il y a un effet à long terme. Simplement, ce qu'il faut quand même faire attention, c'est que la manière dont je vis aujourd'hui modèle mon cerveau pour plus tard. Je veux dire que la manière, ce que vit la jeune fille pendant sa puberté, pendant son adolescence, a un impact à long terme. Donc l'action des hormones pendant cette jeunesse aura un effet à long terme parce que la vie est différente. Je voudrais me faire comprendre. Si je suis, par exemple, obligé de, dans toute mon adolescence, je suis de lutter parce que je ne suis pas du tout aidé par mon entourage, etc. Ça transforme mon cerveau. Par ce qu'on appelle l'épigenèse. C'est la lutte que je suis obligé de mener transforme mon cerveau. Et ça, je le garderai plus tard. Donc, les jeunes qui sont dans l'altérité à cet âge ne seront plus les mêmes. Donc, ce que je vis pendant l'adolescence laisse des impacts. Est-ce que j'ai su me faire comprendre? Parce que ma vie me modèle. Le cerveau, parce qu'on appelle l'épigenèse, c'est-à-dire que le cerveau se forme en fonction de ce que l'on vit. Nos actes nous façonnent. Donc, ce que je vis. Donc, si je vis à la garçonne pendant l'adolescence, à cause des hormones qu'on me donne par la pilule, peut laisser des séquelles. Si, au contraire, je vis avec mes hormones naturelles, avec tout ce que font les hormones naturelles pendant mon adolescence, alors cette vie marque mon cerveau pour plus tard. Vous voyez ? Parce que ma vie me façonne. Et donc, agir pendant l'adolescence en transformant l'esprit d'une personne aura probablement des effets à long terme. Cette personne, vous voyez, on n'est pas dans la maladie, on a des choses très très fines. Très, très, très fine. C'est développer notre personne. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a un certain capital génétique, des certaines hormones et une vie. Et donc, nous devenons à partir de ce que nous avons reçu.
Alors,
Voyez? Et donc,
oui.
vous comprenez. Donc, changer les hormones à l'adolescence fait craindre que cette personne sera privée de choses que les hormones naturelles lui auraient données à
Alors,
l'adolescence.
professeur, 30 secondes pour répondre à cette dernière question. Quelle recommandation faites-vous à l'issue de ce chapitre?
Alors,
30
moi,
secondes, hein.
personnellement, je suis en train d'écrire un livre
Ah,
qui va
vous allez
bientôt
en
la sortir,
venir.
où je traite ce sujet notamment.
Bon.
C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il faut obliger, il faut s'obliger en tant que médecin à exprimer ça aux jeunes femmes qui viennent demander la pilule. On ne peut pas les laisser dans l'ignorance, mais on n'en est pas à dire il faut interdire la pilule chez les jeunes filles.
Merci, merci professeur. Merci beaucoup d'être venu ce soir en direct nous parler à la fois des graves conséquences des transitions de genre, de cette lettre J sur la prise d'hormones contraceptives. Et je rappelle que les auditeurs peuvent retrouver tous ces propos dans votre livre Les neurosciences répondent à 26 questions aux éditions Elis. Merci à vous, professeur. À très bientôt, je
Merci
l'espère.
Thierry, merci
Bonne
aux
soirée.
auditeurs.